Je peps ma vie, c'est le podcast de peps. Très souvent dans mes accompagnements, j'ai entendu la phrase suivante. Mais pourquoi ne me l'a pas dit avant ? Alors dans ce podcast, j'ai eu envie de transmettre et de partager au plus grand nombre ces histoires, ces astuces, ces conseils. On va parler de connaissance de soi, d'entrepreneuriat et de différents thèmes en fonction de mon inspiration et des rencontres de la vie. Profite de ce podcast, prends ce que tu as à apprendre, laisse de côté ce qui ne te parle pas et surtout, transmets, partage si tu y vois un plus pour toi ou pour les autres. Je suis Séverine, la fondatrice de Peps et je te souhaite une belle écoute. Et n'oublie pas de mettre du Peps dans ta vie. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast où nous allons, comme prévu, parler des peurs. Ici, je ne vais pas parler de la peur comme une émotion en tant que telle. La peur qui est là, bien sûr, pour nous protéger, pour nous mettre en garde, qui est un véritable instinct de survie et qui nous est très utile. Aujourd'hui, on va la voir sous un autre angle et on va parler des différentes peurs qui nous empêchent d'avancer. J'ai envie de dire des peurs un petit peu plus intellectuelles qu'émotionnelles. C'est les peurs qui sont présentes dans notre quotidien, mais qui ne menacent pas réellement notre vie. Et d'ailleurs, toi, est-ce que tu sais quelles sont les peurs qui t'empêchent d'avancer lorsque tu as envie de te lancer dans un nouveau projet ? J'aimerais bien que tu mettes dans les commentaires ta plus grande peur. Moi, j'ai fait des recherches et je vais ici te donner le top 5 des grandes peurs qui nous menacent. Et nous avons d'ailleurs une grande gagnante. La numéro 1, la plus importante, la plus répandue, c'est la peur de l'échec. Ça veut dire la peur de se planter, la peur de rater et de se prendre une belle claque. La deuxième peur, c'est celle de ne pas être à la hauteur. Quand on ne se sent pas capable, quand on estime manquer de compétences ou qu'arrive le syndrome de l'imposteur. La troisième peur est celle de l'insécurité financière. La peur de perdre de l'argent ou de ne plus pouvoir subvenir à ses besoins ou de se dire « mais comment est-ce que je vais payer mes factures ?» et perdre un petit peu de son confort. La quatrième peur, c'est celle de se tromper. C'est la peur de faire le mauvais choix ou de regretter ce choix, de se dire « ah, on aurait mieux fait de ne pas le faire ». Et la cinquième des peurs, c'est celle du regard des autres, des critiques. On n'a pas du tout envie d'entendre « ah, bah, je te l'avais bien dit » ou « de toute façon, tu n'en fais qu'à ta tête » ou encore « tu croyais quoi, toi, que t'allais y arriver ?» Voilà, ça ce sont les cinq grandes peurs que l'on rencontre lorsque l'on veut se lancer dans un nouveau projet, qu'il soit personnel ou professionnel. Et comme on est sur un podcast professionnel et notamment sur l'entrepreneuriat, ce sont généralement les cinq grandes peurs que l'on retrouve lorsque l'on veut changer de métier ou que l'on veut se lancer dans une nouvelle formation ou encore que l'on veut s'installer à son compte. Mais nous avons plein d'autres peurs, comme la peur de réussir par exemple. Cela peut peut-être te paraître surprenant, mais c'est une véritable peur aussi qui va empêcher de passer à l'action. Il y a aussi la peur de se faire remarquer, la peur d'être jalousé ou d'être copié lorsqu'on a une bonne idée, la peur d'oser, de sortir des rangs. Bref, nous sommes tous envahis de peurs plus ou moins prégnantes dans nos vies. Et aujourd'hui, on va se demander, mais pourquoi nos peurs sont-elles toujours présentes et qu'est-ce qu'elles viennent mettre en évidence ? Pour répondre à ces deux questions, je vais m'appuyer sur un livre que j'ai beaucoup aimé, qui est celui de Lise Bourbeau, « Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même ». C'est un livre de développement personnel qui va explorer 5 blessures émotionnelles fondamentales qui peuvent entraver notre épanouissement personnel. Lise Bourbeau, elle identifie ces blessures qui sont le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison et l'injustice. Et elle nous dit que chacune de ces blessures est associée à des schémas de pensée, à des émotions et des comportements spécifiques qui peuvent se manifester dans nos vies. Elle nous explique par exemple que le rejet est lié à un sentiment de ne pas être accepté ou aimé. Elle nous dit que l'abandon, ça découle d'une perception d'être négligé ou non aimé par des personnes qui sont importantes dans notre vie, ce qui va pouvoir engendrer des comportements de dépendance ou de fuite émotionnelle. L'humiliation, quant à elle, elle nous dit qu'elle est associée à un sentiment de honte et de dévalorisation envers soi-même, qui peut conduire à des comportements de perfectionnisme ou à un besoin de constant de demander la validation des autres. La trahison est liée à un sentiment de confiance qui a été brisé, qui peut entraîner des difficultés à faire de nouveau confiance aux autres et à établir des relations saines. Et l'injustice serait associée à un sentiment d'irrespect ou de non-reconnaissance de nos besoins et de nos droits fondamentaux, ce qui pourrait engendrer de la colère et de la frustration. Élise Bourbeau, dans son ouvrage, elle nous encourage à prendre conscience de ces blessures, de leur schéma de fonctionnement, qu'ils soient au niveau comportemental ou émotionnel. Elle nous invite à les identifier pour entreprendre un processus de guérison
pour qu'on puisse retrouver plus d'authenticité et d'épanouissement personnel. Si je choisis de te parler de cet ouvrage, c'est parce qu'en fait, derrière chacune de ces blessures, on va pouvoir venir y rattacher les 5 peurs les plus dominantes dont je te parlais tout à l'heure. Je vais te donner des exemples. La peur de ne pas être à la hauteur, elle va être attachée à la blessure du rejet. Une personne qui a une blessure de rejet, elle peut craindre de ne pas être à la hauteur des attentes des autres ou de ne pas être acceptée pour qui elle est réellement. Cela vient souvent de nos expériences passées où on a fait quelque chose que nous on estimait bien mais qui n'était pas à la hauteur attendue par les autres, par un parent, par un responsable, par un collègue, et on a pu se sentir rejeté à cause de ça. Prenons un exemple super concret. On imagine qu'on est à l'école, qu'on fait une course, on donne tout ce qu'on a et malgré tout, on termine dans les derniers de la classe. Et ensuite, le prof de sport, il dit à 2 élèves de constituer des équipes pour la prochaine épreuve. Donc les élèves choisissent Pierre, et puis l'autre il choisit Clotilde, et puis l'autre il choisit Marina, et puis l'autre il choisit Paul, etc. Et puis là on entend « Ah non, pas toi, t'es trop nul ». Donc on n'est pas choisi dans l'équipe. On est, vous savez, le dernier qui arrive dans l'équipe par défaut. Dans une situation comme celle-ci, on va vivre un véritable sentiment de rejet. Ça va nous envahir et ça peut conduire à un sentiment généralisé d'insécurité quant à sa valeur personnelle. Voilà comment ça se construit. Si on prend maintenant la peur de se tromper, on va pouvoir la rattacher à la blessure de l'abandon. Elle est souvent associée à la crainte de la désapprobation ou de la perte de soutien de la part des autres en cas d'erreur. Quand on a cette peur, on va chercher constamment l'approbation et la validation des autres pour se sentir en sécurité. La peur de l'échec, qui est la plus importante des peurs la plus présente, elle est rattachée à l'humiliation. La peur de l'échec, on la rattache à l'humiliation, parce que c'est une blessure qui découle d'une expérience passée d'être critiquée ou ridiculisée ou humiliée par nos actions. Et cette expérience qu'on a peut-être pu vivre va créer une peur intense de répéter cet échec et d'être à nouveau confronté à la douleur de l'humiliation. On va donc éviter de prendre des risques ou de se lancer dans de nouveaux projets par peur de l'échec et de la honte qui pourrait en découler. D'ailleurs, je vais te donner un exemple très concret d'une personne que j'ai accompagnée en bilan de compétences qui souhaitait s'installer à son compte et qui n'y arrivait pas, sans qu'on sache vraiment pourquoi, puisqu'elle avait les compétences et le potentiel. En creusant plus loin, en allant chercher derrière ses peurs, en allant creuser et en remontant jusqu'à sa blessure, elle s'est rendue compte que pour elle, si elle vivait un échec, ce serait une honte insurmontable. On a donc travaillé sur cette blessure pour pouvoir avancer dans son projet. La peur suivante est celle du regard de l'autre et on va la rattacher à la blessure de la trahison. La trahison, ça implique une méfiance envers les autres et une peur de ne pas pouvoir faire confiance. Et cette méfiance, elle peut se manifester effectivement dans la peur du regard des autres car la personne craint d'être jugée ou trahie par ceux qu'elle croit être proches. Et la dernière de nos peurs est celle de l'insécurité financière. On va la rattacher à la blessure de l'injustice. Elle va se manifester souvent parce qu'on a vécu des expériences passées où on a, sur le plan financier, eu l'impression d'avoir vécu quelque chose d'injuste. Ça peut être la perte d'un emploi, des conflits financiers au niveau familial ou des circonstances économiques défavorables qui ont pu conduire à des difficultés financières. Je vais te donner un exemple que tu as peut-être pu vivre à titre personnel ou que tu as pu croiser dans ton parcours. On imagine que tu es dans une entreprise depuis 10 ans, que tu attends une promotion qui serait une véritable valeur ajoutée au niveau de ton parcours, mais aussi au niveau de la rémunération. Et au moment d'attribuer le poste, finalement, on va le donner à la petite nouvelle qui est là depuis à peine 6 mois. Bien là, il est fort possible que tu vives une véritable injustice, et du coup qui va te mettre dans une insécurité financière. Parce que ça fait 10 ans que tu travailles, que tu attends cette promotion pour une revalorisation salariale et que tu ne l'obtiens pas. Voilà un petit peu pour les exemples pour te montrer que nos peurs sont très très souvent rattachés à des blessures. Donc comme Lise Bourbeau, eh bien je t'invite à creuser un petit peu à l'intérieur de toi, à faire une petite phase d'introspection pour aller voir ce qui se joue et pouvoir ainsi travailler sur tes peurs. Il faut bien comprendre que les peurs nous conduisent vers des ressentis plutôt négatifs qui vont venir nous plomber, limiter notre champ d'action, voire nous faire faire du surplace. Et notre cerveau va de plus vouloir nous donner raison et nous prouver que nous avons raison d'avoir peur. Il va donc falloir sortir de ce schéma qui est un véritable cercle vicieux. Et toi alors, est-ce que tu veux te libérer de tes peurs? Évidemment, je ne peux pas entendre ta réponse qui est censée être soit oui, soit non. J'espère vraiment que tu as répondu non. Non, on ne veut pas se libérer de nos peurs. On va plutôt travailler avec nos peurs et apprendre à les surmonter. Nathalie Martin nous dit dans l'une de ses vidéos que la seule manière de se libérer pour toujours de nos peurs, eh bien, c'est d'être mort. Alors effectivement, c'est absolument pas la solution que j'espère pour toi. La deuxième solution de se libérer de ses peurs, nous dit-elle, c'est de ne plus rien faire, de ne plus bouger et de rester dans notre canapé à faire rien. Ça va pas nous aider non plus pour passer à l'action dans nos projets. Donc la seule manière de se libérer concrètement d'une peur, c'est d'arrêter de vouloir ne plus avoir peur. Et on va donc passer par la phase acceptation. Ça veut dire que j'accepte que la peur fait partie de ma vie. Accepter, ça ne veut pas dire se résigner. Ça veut juste dire prendre acte, prendre conscience. C'est ok, j'ai peur de me lancer. Eh bien, ça me va. J'en prends simplement conscience. La peur, c'est un indicateur que tu fais quelque chose de nouveau dans ta vie. Alors, je vais te donner plusieurs étapes. La première, c'est prendre conscience de ta peur. C'est de bien l'identifier, la reconnaître, la nommer, essaye de lui donner un petit nom et essayer de voir quelle blessure elle réveille à l'intérieur de toi. La deuxième étape, elle va consister à remercier ta peur. Oui, oui, on va faire ça, on va lui dire merci. Pourquoi ? Parce qu'à la base, c'est notre cerveau qui crée cette peur pour nous protéger. Il veut à tout prix nous éviter de revivre une souffrance. Alors, on va effectivement lui dire merci. Merci de vouloir prendre soin de moi. Et on va continuer notre phrase en lui disant « Mais cette fois-ci, on va faire autrement. Je décide d'aller vers ma peur et on va y arriver. » La troisième étape consiste à se dire qu'une peur n'est jamais réellement légitime en tant que telle. Une peur, c'est une pensée. Une peur, ça n'est pas quelque chose de concret, de palpable. Par exemple, si je te dis que j'ai peur du noir, c'est pas de la couleur noire que j'ai peur. C'est ce que j'imagine qui pourrait m'arriver si je suis seule dans une pièce où je ne vois rien. Tu vois bien que c'est pas la légitimité de la peur qui est présente et qui nous fait du mal, c'est ce qu'on imagine derrière. C'est une sorte de tromperie de notre cerveau. Un autre exemple pour être sûr que tu comprennes bien ce que j'essaye de te dire, si je me suis brûlée une fois avec du feu, je vais te dire que j'ai peur du feu. Mais en vrai, c'est pas du feu que j'ai peur d'avoir de nouveaux mal en me brûlant. Ce qui est donc important, c'est de prendre conscience de cette peur, de l'accepter et de travailler dessus. On ne peut pas attendre qu'elle s'en aille d'elle-même comme ça, par magie, ça n'existe pas. Et puisqu'elle fait partie de la vie, puisqu'elle nous rend humains, alors je vais simplement apprendre à la dépasser. Et c'est comme ça que j'augmente ma zone de confort et que je développe mes capacités, c'est comme ça que je grandis. Ok, j'ai peur, mais je vais le faire quand même. Et c'est à partir de ce moment-là que je diminue la force ou la puissance de cette pensée qu'on appelle la peur. Et pour aller plus loin, je te propose un exercice. Je ne sais pas si tu connais Tim Ferriss, c'est l'auteur du best-seller « La semaine de 4 heures ». Éventuellement, je t'invite à lire cet ouvrage. Dans son livre, il nous donne une technique pour travailler sur ses peurs. Il appelle ça le scénario catastrophe ou moi j'appelle ça mon pire cauchemar. On va commencer à écrire et à noter tout ce qui se passe par rapport à nos peurs. Tim Ferriss nous invite à décrire la situation qui nous fait envie et qui en même temps nous fait peur, et dans laquelle on va ressentir un véritable blocage. Par exemple, j'ai envie de changer de poste ou d'entreprise, mais je n'y arrive pas. Ou alors je dois faire une présentation devant 50 personnes, mais c'est un véritable cauchemar pour moi. Donc la première étape, c'est celle-ci. La deuxième étape, c'est de prendre une feuille, de la diviser en trois colonnes. Dans la première colonne, on va définir les pires choses qui pourraient se passer. Qu'est-ce qui se passerait de dramatique si je quittais mon poste, si je prenais la parole en public ? Et tu notes tout ce qui te vient dans la tête, qui serait vraiment horrible pour toi. Dans la deuxième colonne, tu vas commencer à réfléchir d'une manière un petit peu plus pragmatique à la manière d'éviter ces événements, pour pas que ces scénarios catastrophes se produisent ou au moins que tu puisses en réduire l'effet. En faisant ça, tu commences déjà à reprendre un petit peu de pouvoir sur ta peur et tu viens un petit peu squeezer les automatismes de ton cerveau. Dans la troisième colonne, tu vas réfléchir à une solution pratique pour réparer les dégâts et gérer les conséquences si jamais la situation se produisait. Par exemple, vers qui est-ce que tu te tournerais pour trouver de l'aide ? Exemple, tu pourrais très bien te dire « si je change de poste, le scénario catastrophe, ce serait de quitter mon CDI pour un CDD et que ça ne se passe pas bien, peut-être que je pourrais trouver un job alimentaire en attendant, peut-être que je pourrais repostuler dans mon ancienne entreprise, peut-être que je pourrais faire de l'intérim. » Je vais chercher une solution réaliste et réalisable que je pourrais mettre en œuvre si jamais ce scénario catastrophe se produisait. Une fois que tu as rempli ces trois colonnes, tu vas prendre une nouvelle page blanche que tu vas diviser en deux. Dans la partie du haut, tu vas venir écrire une liste de tous les bénéfices que produirait la réussite de ton projet ou ne serait-ce que la tentative d'un éventuel succès. On parle ici pas forcément de réussite totale, mais bien d'un succès partiel. Et tu vas venir noter tous les bénéfices que tu pourrais en tirer. Dans la partie du bas, tu vas aussi venir noter qu'est-ce qui se passerait si tu ne faisais rien. Ça veut dire si tu ne mets pas ton projet en action. On a tous tendance à voir ce qu'on risque de perdre en changeant de vie ou de métier ou en se lançant dans un nouveau projet, mais on s'interroge rarement sur le coût de l'inaction. Et cette partie-là, pour moi, c'est presque la partie la plus essentielle. Tu vas donc lister les conséquences possibles d'un statu quo, que ce soit sur le plan émotionnel, physique ou financier. Essaye de te projeter sur les 6 mois ou l'année qui va venir. C'est un exercice assez difficile à faire tout seul, donc tu peux te faire aider, te faire accompagner, mais c'est surtout un exercice extrêmement révélateur. Il y aura des prises de conscience quand tu vas le faire, et ensuite c'est toi qui décides comment tu as envie d'agir par rapport à ton projet. Une autre des méthodes que j'ai envie de partager avec toi aujourd'hui dans ce podcast s'appuie sur le langage corporel. Et pour ça, je vais t'inviter à regarder une vidéo, je vais te mettre le lien dans la description, une vidéo de Amy Cuddy. Amy Cuddy, c'était une étudiante qui était timide et fragile. Et elle est devenue l'une des plus brillantes chercheuses en psychologie de sa génération et elle enseigne actuellement à la Harvard Business School. À travers cette vidéo, elle nous prouve scientifiquement que notre posture peut avoir un impact sur notre cerveau et sur ce qui se joue à l'intérieur de nous. Quand on prend une posture de gagnant, une posture de force, que l'on fait semblant d'avoir confiance en nous, alors notre taux de testostérone augmente et notre taux de cortisol, qui lui est lié au stress, va diminuer en seulement 2 minutes. C'est prouvé, je vous invite vraiment à aller voir cette vidéo, je l'ai testée aussi par moi-même et j'en ai vu les effets bénéfiques, c'était juste incroyable. En fait, elle nous invite à faire semblant. À faire semblant d'être fort, semblant d'être puissant, en adoptant tout simplement une posture genre à la Wonder Woman. Il n'y a pas besoin de ressources particulières, il n'y a pas besoin de technologie, il n'y a pas besoin de statut particulier ou d'un pouvoir quelconque. On a juste besoin de notre corps et de 2 minutes. Et ça peut modifier réellement les résultats dans notre vie. Elle nous dit, si tu joues à faire semblant, tu vas finir par devenir cette personne courageuse. Et on passe ainsi de la trouille au courage. Et le courage, c'est ce qui nous fait dépasser nos peurs sans avoir peur. À travers le langage du corps, moi aussi je t'invite du coup à venir configurer ton cerveau pour faire face au mieux aux situations qui te font peur. Fais monter ta testostérone, fais baisser ton cortisol. Et Amy Cuddy va même un petit peu plus loin en nous disant « Ne fais pas semblant jusqu'à ce que tu le fasses, mais fais semblant jusqu'à ce que tu le deviennes. » C'est vraiment incroyable l'effet que peut avoir le langage corporel, la reprogrammation qu'il peut faire au niveau de notre cerveau et la confiance en soi qu'on peut gagner. Je te jure qu'on peut vraiment avancer et dépasser ses peurs rien qu'en utilisant cette méthode-là. Maintenant, moi, je t'invite à utiliser les 3 que j'ai pu te donner. Donc celle où je te parle de déjà prendre conscience de ta peur, lui dire merci et travailler avec pour aller chercher quelle blessure elle vient réveiller. La deuxième de Tim Ferriss, de faire cet exercice écrit qui va te faire prendre de véritables prises de conscience. Et la troisième qui est de travailler sur ta posture physique, sur ton corps, pour venir dépasser les peurs. Je pense qu'avec ces 3 techniques-là, tu as absolument tout ce qui est nécessaire pour pouvoir avancer dans ton projet, garder tes peurs, mais être capable de les surmonter pour qu'elles ne soient absolument plus un frein dans ton évolution, mais plutôt un booster. Voilà, j'arrive à la fin de ce podcast. Je suis à nouveau très contente d'avoir pu partager ces techniques et ces méthodes avec toi. J'espère t'avoir appris des choses et que cela va t'être utile pour que tu avances toi aussi dans ton projet. Je te dis à très bientôt, mardi dans 15 jours, où je vais aller un peu plus loin que les peurs et j'aborderai avec toi le sujet des croyances limitantes. Je te souhaite une excellente journée et en attendant, fais comme moi, mets du peps dans ta vie.